qui ne m'a jamais quitté. Que vous restiez 5 jours avec nous jusqu'à Southampton ou poursuiviez notre tour du monde pendant 90 jours, j'espère que vous vous souviendrez de cet instant comme du début d'une expérience inoubliable. Puis, portant un toast, il conclut. Levons l'ancre! Les applaudissements crépitèrent. Puis les passagers commencèrent à faire connaissance et à bavarder. Alvira et Willy Meehan, qui fêtaient leur 45e anniversaire de mariage, savouraient leur bonheur. Avant d'avoir gagné à la loterie, Alvira était femme de ménage et Willy plombier. Ted Cavanaugh, 34 ans, accepta un verre de champagne et regarda autour de lui. Plusieurs personnes ne lui étaient pas inconnues. Les présidents des conseils d'administration de General Electric et de Goldman Sachs, quelques couples célèbres de Hollywood. Une voix à ses côtés demanda « Seriez-vous par hasard apparenté à l'ambassadeur Mark Cavanaugh ? Vous lui ressemblez étonnamment. » « En effet, » répondit Ted en souriant, « je suis son fils. » J'en étais sûr. Permettez-moi de me présenter, Charles Chillingsworth. » Ted reconnut le nom de l'ambassadeur en France à la retraite. « Nous étions attachés d'ambassade à la même époque, » dit Chillingsworth. « Toutes les femmes étaient amoureuses de votre père. Je lui disais que c'était honteux d'être aussi beau. Il a été ambassadeur en Égypte sous 2 présidents, si je me souviens bien, puis accrédité à la cour du palais Saint-James. » « C'est exact, » confirma Ted. « Mon père était fasciné par l'Égypte, et je partage sa passion. Dans ma jeunesse, j'ai passé plusieurs années là-bas, puis nous sommes partis pour Londres quand il a été nommé ambassadeur en Angleterre. Avez-vous suivi la même carrière que lui ?»« Non, je suis avocat, mais une bonne partie de mon activité est consacrée à récupérer les antiquités et les objets qui ont été volés dans leur pays d'origine. » Ce qu'il ne dit pas, c'était qu'il participait à ce voyage dans l'unique but de rencontrer Lady Heywood et de la persuader de rendre son célèbre collier d'émeraude, dit « collier de Cléopâtre », à son propriétaire légitime, le peuple égyptien. Le professeur Henry Longworth avait surpris la conversation et se pencha pour mieux entendre la suite, les yeux brillants d'intérêt. Il avait été invité pour sa part en tant que conférencier. Spécialiste reconnu de Shakespeare, il mêlait toujours à ses conférences des interprétations de certains passages qui ne manquaient pas de captiver son auditoire. Sexagénaire, de petite taille, le cheveu rare, il était très demandé aussi bien dans les croisières que dans les universités. Devon Michaelson se tenait un peu à l'écart des autres passagers. Il ne ressentait ni besoin ni désir de participer à ces conversations banales et inévitables lors d'une première rencontre entre inconnus. Comme le professeur Longworth, il avait la 60aine. Et aucune caractéristique physique particulière. Un peu plus loin se tenait Celia Kilbride, toute seule. Elle avait à peine 28 ans. Élancée, les cheveux noirs et les yeux bleu saphir, elle semblait ignorer les regards admiratifs que lui jetaient ses compagnons de voyage. La première escale de ce tour du monde serait Southampton, en Angleterre. C'était là qu'elle devait débarquer. Elle aussi était invitée en tant que conférencière. Gémologue réputée, elle devait parler de l'histoire de bijoux célèbres à travers les siècles. La personne la plus enthousiaste de cette assemblée était certainement Anna 2000, une divorcée de 56 ans, originaire du Kansas, qui avait gagné un billet pour cette croisière à une tombola de charité organisée par sa paroisse. Ses cheveux et ses sourcils teints en noir contrastaient avec son teint pâle. Elle espérait avoir la chance de rencontrer Monsieur Parfait. Pourquoi pas ? Elle avait gagné à la loterie. La chance continuerait peut-être à lui sourire. À 86 ans, Lady Emily Heywood, connue pour son immense fortune et ses actions philanthropiques, était entourée de ses invités personnels. Brenda Martin, son assistante et dame de compagnie depuis 20 ans, Roger Pearson, qui était à la fois son conseiller financier et l'administrateur de ses biens, ainsi que sa femme Yvonne. Lors d'une interview au sujet de cette croisière, Lady Emily avait déclaré qu'elle avait l'intention d'emporter avec elle son collier légendaire et de le mettre en public pour la première et dernière fois, avant d'en faire don au Smithsonian Institute. Tandis qu'ils se dispersaient en se souhaitant bon voyage avec chaleur, aucun de ses passagers ne pouvait se douter qu'au moins l'un d'entre eux n'atteindrait pas Southampton en vie. Chapitre 2. Au lieu de se retirer dans sa cabine, Celia Kilbride resta accoudée à la rambarde,